France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Delphine de Figan. J'ai lu votre livre d'une traite. Ici, vous traitez un fait de société à travers une histoire qui happe le lecteur dès les premières pages, notre rapport à cet engin maudit et adulé qu'est le téléphone portable. Il me semble que deux questions fondamentales sont posées dans votre roman. À quel point le téléphone portable est-il le reflet de nos vies? Et puis quel est le rapport que nous entretenons avec notre smartphone? En sommes-nous esclaves? Pourrions-nous vivre sans?
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Laisser ou ne pas laisser de traces, disparaître avec ou sans explication, chercher ou non la mère ou l'amoureuse qui n'est plus, chacun chacune a ses raisons dans le dernier roman de Delphine de Vigan. Un soir, un homme se rend compte qu'il a quitté le bar qu'il fréquentait avec un téléphone portable qui n'est pas le sien. Quand il entreprend de le rendre à l'intéressée, elle lui demande, elle le supplie presque, de le garder. Un téléphone portable, que dis-je ? Un monde de traces, de récits en bribes, de petits films, d'informations très personnelles, moins personnelles, de conversations par milliers, évidemment. L'homme se fascine pour la petite machine qui ravive d'anciennes blessures et lui permettra, in fine, de les apaiser. Amitié, filiation, emprise amoureuse, chagrin amoureux, désir fou de vivre une vie libérée de la surveillance de masse, mais aussi vacillement des identités. Il y a tout ça dans Je suis Romane Monnier, le titre du nouveau livre de Delphine de Vigan. Elle est notre invitée. On finira en musique, parce qu'il y a de la musique dans nos téléphones. On est ensemble pour une heure. Bienvenue dans le Book Club. Bonjour Delphine de Vigan.
Bonjour Marie.
On est ravis de vous recevoir pour ce roman « Je suis Romane Monnier » paru aux éditions Gallimard en cette rentrée littéraire de janvier 2026. Ici, tout commence toujours par un portrait de lecture. Je ne sais pas s'il y a trace de nos lectures dans nos téléphones portables, dans le mien, quand même pas mal. Plus ça va, plus j'ai des captures. Ouais, j'ai des petites captures d'écran, peut-être dans le vôtre aussi. Mais en tout cas, l'idée, c'est de faire connaissance avec vous par votre parcours avec les livres. Ça commence comment cette histoire pour vous, le rapport à la lecture ?
Le rapport à la lecture, je dirais qu'il commence avec la bande dessinée. J'ai hérité, quand je devais avoir, 9-10 ans, d'une espèce de collection de BD qui était en transit, en fait, dont j'étais la dépositaire transitoire.
Ouais.
Oui, c'est ça. C'était une collection qui était destinée à l'un de mes cousins qui était encore trop petit pour la récupérer. Et donc j'ai lu avec beaucoup de passion et découvert aussi non seulement le plaisir de la lecture mais de la répétition de la lecture. Lucky Luke, Astérix et surtout il y avait Gaston Lagaffe aussi que j'adorais et surtout Philémon, la bande dessinée de Fred qui a été pour moi je pense vraiment à la fois un point d'entrée dans la lecture, dans la poésie, dans l'imaginaire, dans la fantaisie. Et c'est une BD que j'ai relue d'ailleurs à plusieurs reprises.
Vous avez quel âge à ce moment-là ?
Là je devais avoir une dizaine d'années. Je pense.
Et quand vous dites que vous découvrez à ce moment-là aussi le plaisir de la relecture, c'est quel genre de plaisir ?
Ben, c'est en fait lire et relire la même chose et découvrir toujours des petits détails qu'on n'a pas vus. Et en particulier d'ailleurs dans les BD de Fred, l'image est très riche et il y a toujours un petit détail comme ça que j'aimais découvrir.
Est-ce que ça fait partie de votre pratique de lecture maintenant, de relire les livres ?
Ça m'arrive assez rarement. Ça m'arrive sur certains classiques quand même que j'ai éprouvé le besoin de relire parce que j'avais l'intuition et évidemment elle s'est confirmée que j'en aurais une lecture très différente. Voilà, ça m'est arrivé pour certains romans de Stephen King qui est un auteur que j'aime beaucoup et dont j'avais le sentiment d'avoir eu une lecture très adolescente et là aussi l'intuition que j'y trouverais autre chose. Mais j'ai pas une pratique régulière ni systématique de la relecture.
C'est à l'adolescence que vous découvrez Stephen King ?
Oui, un peu plus tard même. Je dirais plutôt à l'entrée dans l'âge adulte.
Qu'est-ce que vous y trouvez qui vous happe et qui vous plaît ?
Stephen King, alors là, c'est pour moi vraiment un univers. J'y trouve à la fois, c'est un peu étrange parce que c'est un auteur qui est connu surtout pour l'horreur et le fantastique. Et en fait, j'ai le sentiment d'y avoir trouvé dès le départ un écho très intime. Parce que finalement, il sait décrire d'une manière absolument incroyable aussi la violence ordinaire. Et voilà, des échos sans doute conscient ou inconscient, à mes propres angoisses d'adolescente ou de jeune femme, à mes propres obsessions, sans doute, et voilà, d'une manière qui était rendue supportable par la fiction.
Et quand vous le relisez, quelques années plus tard, ça change quoi, cette relecture de Stephen King ?
Quand je l'ai relu plus tard, je me suis surtout intéressée aux figures de l'écrivain qui apparaissent dans ses romans, dans plusieurs de ses romans. Je pense évidemment à Misery, que beaucoup de gens connaissent, mais aussi La part des ténèbres, Sac d'os.
Mais en cherchant un miroir ?
Oui, en tout cas, un miroir ou un écho à mes propres questions. Et notamment une question qui est très présente dans les ouvrages de Stephen King, c'est « Qui es-tu quand tu écris ?» qui m'a beaucoup interrogée.
Et c'est marrant parce que c'est aussi, on y viendra tout à l'heure, cette question de l'identité, du vacillement de l'identité, du morcellement de l'identité qui est au cœur de votre nouveau roman. Mais lire, ça vous permet de savoir qui vous êtes quand vous écrivez, vous, Delphine de Vigan ?
Non, je dirais pas ça. Non, et d'ailleurs, je ne sais toujours pas vraiment qui je suis quand j'écris. Je suis toujours surprise par ce que j'écris. Mm-hmm. Et je trouve que ça, pour le coup, Stephen King raconte ça très bien. Il y a quelque chose comme ça qui, c'est presque un autre à l'intérieur de nous qui écrit. Et je trouve ça très intéressant. Ça continue de m'intéresser d'explorer l'autre
qui
en moi
qui apparaît dans l'écriture,
oui.
Oui. Et que vous rencontrez. Une fois que vous êtes au travail, à l'écrit, quoi.
Voilà. Et parfois, même après coup, que je peux rencontrer une fois que le roman est achevé.
Aujourd'hui, la lecture occupe quelle place dans votre vie ?
Oh, une place très, très importante. Oui, j'ai toujours un livre en cours. Il y a des périodes où je lis de manière plus intensive que d'autres. Je pense pour beaucoup de gens, ma lecture aujourd'hui, elle est concurrencée, elle est mise en péril par d'autres choses qui viennent de l'extérieur. Mais je reste une lectrice.
Et ça, vous le sentez ? C'est-à-dire ce que toutes les études décrivent de la diminution de notre temps d'attention, notamment au profit des téléphones portables, etc. C'est quelque chose qui vous impacte profondément ?
Oui, je le sens, oui, vraiment. Et notamment le téléphone, d'ailleurs, parce que il y a quelques années, on parlait beaucoup des séries. Par exemple, on disait, les séries, c'est dramatique. Les gens ne lisent plus, ils regardent des séries. J'ai jamais été très convaincue par ça. Moi, j'ai pas du tout le sentiment que ça vienne concurrencer. Je regarde des séries et j'ai pas du tout le sentiment que ça vienne concurrencer mon temps de lecture. En revanche, le téléphone, oui. L'hyperconnexion, oui. Cette espèce d'hyperconnexion inutile, finalement, dans laquelle nous happe le téléphone.
Qu'est-ce qu'il y a, à part donc Stephen King et la bande dessinée, marqué votre parcours de lectrice ? Est-ce qu'il y a eu des grands moments dans votre parcours de lectrice ?
Oui, bien sûr. J'avais dit un jour que j'étais passée un peu directement de rente-en-plan à Madame Bovary. Pourquoi pas ? Mais au-delà de la formule, il y a quelque chose un peu de ça, c'est-à-dire que j'ai fait un petit détour par les sœurs Parker dans la Bibliothèque Verte, que j'aimais beaucoup, l'histoire de deux sœurs qui menaient des enquêtes, deux sœurs jumelles, une brune, une blonde, très belle, qui menaient des enquêtes dans leur lycée. Agatha Christie aussi, que j'ai beaucoup lu, des étés pluvieux. J'en dévorais un par jour.
La forme de l'enquête, le suspense,
oui,
l'attention narrative, c'est quand même présent.
Voilà, tout à fait, c'était présent quand j'étais adolescente. Et puis ensuite, je dirais, c'est vraiment arrivé en classe de 3e, au collège à L'Aigle, en Normandie, où j'étais, Une vie de Maupassant. Et là, pour moi, c'est vraiment l'entrée dans la littérature par la prescription scolaire.
Et alors, qu'est-ce qui vous happe dans Maupassant ?
Qu'est-ce
que vous en gardez ?
Oui, qu'est-ce que j'en garde ? Parce que alors c'est difficile évidemment d'en parler aujourd'hui, parce que en l'occurrence c'est un texte que j'ai relu. Donc qu'est-ce que j'y projette aujourd'hui ? Je ne suis pas sûre.
À l'époque, ouais.
Évidemment, le risque dans ces cas-là, c'est de reconstruire quelque chose. Mais j'ai quand même souvenir d'avoir été très touchée par le destin de cette femme et par l'idée qu'on pouvait faire tenir une vie dans un livre. Enfin, qu'on pouvait à ce point s'attacher aussi à un personnage. Dont la vie nous était déroulée. Alors évidemment, il lui arrive quand même un certain nombre de choses, mais il y a quand même une certaine lenteur dans ce texte. Peut-être que c'était la première fois aussi que j'arrivais justement à m'attacher à autre chose qu'aux péripéties du récit, mais
à une rythmique, à une langue.
Oui, à une langue, bien sûr, à un temps comme ça de narration assez lent, au fait d'avoir accès à une intériorité. Je me rappelle, j'espère ne pas reconstruire déconstruire quand même, avoir été fascinée par le fait qu'un homme pouvait décrire à ce point la vie d'une femme, ce qui se passe dans son corps. Voilà, peut-être que ça avait été mis en avant d'ailleurs par le prof qui nous avait fait étudier ce texte. Et puis j'ai lu le Horla. Ensuite, j'ai lu pas mal Maupassant. Ensuite, arrivée au lycée, toujours en Normandie, j'étais très assidue du CDI de mon lycée. J'ai souvent cette image. Je ne sais pas pourquoi j'y repense, mais peut-être parce qu'il a quand même joué un rôle assez important dans le du professeur documentaliste, je sais pas comment on disait d'ailleurs à l'époque, je suis pas sûre qu'on disait comme ça, qui tenait le CDI, lequel CDI n'était pas envahi, faut bien le dire. Et donc, moi, je crois que c'est qu'il était assez content de voir quelqu'un qui venait régulièrement chercher des livres. Et je revois tout à fait son visage, sa petite barbichette, mais j'ai complètement oublié son nom. Et ça me...
Il s'est jamais remanifesté.
Non, jamais.
C'est pas la première fois que vous parlez de ce personnage comme étant important dans votre vie de lectrice.
Non, ouais. Non. Autant mon professeur de lettres de l'époque, de Normandie,
vous a fait coucou un jour.
Oui, c'est-à-dire que j'ai écrit un texte sur lui qui est apparu dans l'Obs et bon, il en avait été touché. Puis je lui avais écrit après la terminale. Donc Monsieur de Rivry, qui était mon professeur de français, qui a vraiment joué un rôle très important dans mon goût pour la littérature.
Mais ce documentaliste,
impossible de me rappeler comment il s'appelait. Et donc j'ai lu beaucoup Les Russes, comme beaucoup d'adolescents. J'ai lu Dostoïevski, dont je sais pas, il y avait quelque chose, une fièvre dans ces histoires. Qui faisait aussi là probablement écho à quelque chose. Et puis un peu plus tard, en terminale par exemple, j'ai découvert Italo Calvino. Ça a été une grande découverte et c'est un auteur que j'ai découvert. Disons que ça, Italo Calvino, c'est peut-être aussi l'arrivée de la littérature étrangère que je ne lisais pas puisque je me contentais entre guillemets. Enfin, si bien sûr il y avait Dostoïevski, mais de la littérature contemporaine étrangère, on va dire. Puisque je lisais aussi beaucoup ce qui était indiqué par les professeurs. Et si par une nuit d'hiver un voyageur, là ça a été un texte très important que j'ai lu en terminale.
Qui est plutôt un texte, en tout cas dont la structure est expérimentale. Donc peut-être incroyable. Vous pouvez rappeler le principe de ce livre.
Oui, le principe c'est que ce sont 10 débuts de roman. Déjà le lecteur est pris à partie puisque le narrateur s'adresse au lecteur en lui disant tu, et c'est l'histoire d'un lecteur et d'une lectrice qui se rencontrent et qui, dans mon souvenir, sont à la recherche d'un texte qui s'appelle Si par une nuit d'hiver un voyageur. Dont ils ne trouveront d'ailleurs, je crois, jamais la fin. Mais en revanche, avec eux, on lit 10 débuts de romans de genres extrêmement différents. Ça va du roman épique à la Garcia Marquez, au polar, en passant par le roman d'amour, etc. Donc à chaque fois, des débuts de romans dans lesquels on se plonge, et évidemment avec la frustration de ne pas pouvoir aller au bout. Voilà. Et puis, de la part d'Italo Calvino, la démonstration si besoin en était de son talent d'écrivain, de narrateur et enfin de conteur. Et voilà, ouais, c'est un texte que j'avais beaucoup aimé et qui se trouve en plus être lié à une première histoire d'amour.
Pour vous.
Oui, donc voilà. Et j'ai continué ensuite à lire Calvino. Ouais.
Et est-ce que les livres ont continué à être liés à des histoires d'amour ou d'amitié? Deux choses qui apparaissent très fort dans Je suis Romane Monnier. Il y a tout un système de conversation dans ce livre-là. Ce mot-là que vous conjuguez à différents endroits. Conversation filiale, amoureuse, amicale. Est-ce que les livres, c'est un bon outil de conversation pour vous?
Ah oui, même assez fondamental. Ouais. À la fois en amitié et en amour, ça a été souvent le cas. Ouais.
Ça passe comme ça, quoi. Et ça passe bien.
Oui, oui, oui. Et puis, on peut se dire plein de choses. J'ai des souvenirs très, très forts de lectures collectives. Je précise, par exemple, je suis pendant très longtemps partie avec des amis en vacances. On partait tous les ans ensemble, une même bande d'amis, on va dire, avec nos enfants qui ont grandi ensemble, etc. Mmh. Et donc, pendant ces vacances, on lisait parfois les livres circulaient. Mmh. Et donc, il y a des textes qui nous ont laissés sans voix. Je pense par exemple à un texte de Véronique Olmy qui s'appelle Bord de mer, qui est son premier roman, qui est un roman absolument incroyable, mais atroce, il faut bien le dire.
Qui passait d'un transat à l'autre
avec la même réaction, c'est-à-dire que l'impossibilité d'adresser la parole à qui que ce soit dans les 12 heures qui suivent, ce qui est toujours évidemment un peu embêtant quand on est en collectivité. Et ce qui était assez fascinant, c'est de voir cet effet se reproduire sur les uns sur les autres. Ou La route de Cormac McCarthy, où on s'est trouvés tous, j'ai vu un de mes amis sur son transat fermer le livre et pleurer. Et je me suis dit, tiens, Vincent pleure après avoir lu ce livre. Et puis, quelques temps après, bah, j'ai pleuré aussi. Mmh. Ouais, ça, c'est, oui, c'est bien sûr, c'est un terrain fantastique de, d'échange et d'émotions partagées et de réflexion aussi, et de discussions et parfois de, d'engueulades.
Et justement, vous, vos romans ont depuis des années des très très larges succès en France et ailleurs. Ça veut dire que c'est aussi une conversation avec des lectrices et des lecteurs que vous rencontrez parfois, Delphine de Vigan, même si c'est succinct. Est-ce que c'est une conversation qui vous importe, la forme que ça prend peut-être d'année en année?
Oui, j'aime bien ça. Ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé parce que j'ai donc là déjà ça faisait 5 ans que je n'avais pas publié de roman et il se trouve qu'en plus la dernière fois c'était donc en 2021, c'était au moment de c'était la fin du Covid, donc je n'ai pas du tout été à la rencontre, enfin très peu à la rencontre des lecteurs. J'aime bien ça. Oui, j'aime bien. Je trouve que ça c'est intéressant de voir ce que mon propre texte produit sur l'autre, les différents échos, les différentes lectures, les différentes interprétations. Je trouve ça toujours assez fascinant.
Ça continue de révéler cette fameuse rencontre dont vous parliez, de l'autre en soi. On va parler de votre livre « Je suis Romane Monnier », publié chez Gallimard juste après ça.
Tout ça dans un objet, encore faut-il qu'il soit bien chargé. Je dois l'éteindre pour m'en éloigner. Si je l'oublie, je passerai une belle journée. Sans la haine, le stress, le faux mot, l'étanger. Et tout ce qui me fait me sentir comme une merde, ou presque, c'est fou de se dire qu'il y a tout ça dans un objet. J'écoute les notes en fois deux, mais quand j'en fais, ça dure 10 minutes. J'ai pas tant de choses à dire, je crois que je veux juste qu'on m'écoute. Je me demande comment faisaient les gens avant pour se donner rendez-vous. Moi j'ai besoin de checker 1000 fois mon écran pour être sûr de mon coup. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet. Amour et les dangers, dans un objet. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet. Je peux pas m'en empêcher, dans un objet. Tous les soirs t'évites le vide, tu regardes 5 minutes. 2 heures plus tard tes mains transpirent et t'as les yeux qui brûlent. T'as rencontré un tas d'amis que t'as jamais vu pour de vrai. Mais à l'heure où on notre avis surtout, aujourd'hui qu'est-ce qui est vrai. T'écoutes les notes en fois deux, mais quand on fait ça dure 10 minutes. T'as pas tant de choses à dire, je crois que tu veux juste qu'on t'écoute. Tu te demandes comment faisaient les gens avant pour organiser un date. Toi tu zoomes des heures sans rien faire derrière l'écran, et puis tu te sens bête. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Qui est Romane Monnier qui demande mystérieusement mais avec insistance à un inconnu de la débarrasser de son téléphone portable? Et qui sont toutes les fictions de nous-mêmes que porteraient les petits boîtiers intelligents que nous trimballons à peu près partout et qui enregistrent, non sans les transmettre à des multinationales qui en font de l'or, tout un tas de données sur nos existences. Delphine de Vigan, vous partez de ce vertige et vous sondez, comme en réponse, le désir farouche, parfois radical et parfois destructeur, de disparaître pour s'extraire de cette emprise psychotechnologique. Quelles traces laissons-nous et pour qui? Comment les vies de tous les personnages de ce roman résonnent à l'endroit précis de l'effacement et de la disparition? Quelle langue aussi, quelle langue écrire qui rend compte de l'immensité de la conversation numérique contemporaine? On continue d'en parler avec vous. Je suis Romane Monnier, apparue aux éditions Gallimard en cette rentrée littéraire de janvier. Et puisqu'on est accueilli par son nom, à cette jeune femme, et que son nom n'est pas loin du roman, le petit mot qui est juste en dessous, peut-être nous dire un mot sur comment vous choisissez ce prénom et ce nom qui nous sautent à la figure et qui d'emblée quand même font scintiller l'idée de la fiction quand même. C'est pas rien d'appeler son personnage Romane, Delphine de Vigan.
Oui, c'est vrai. J'y ai pensé d'autant plus qu'à un moment donné, j'avais envisagé d'appeler le livre Romane tout court. Mmh. Et la raison principale,
j'adore,
ce qui me plaisait le plus, c'était Romane, roman.
C'est clair, ouais, trop beau.
Donc, voilà.
On vous a pas laissé faire?
Non, d'autres hypothèses sont arrivées. C'est moi qui ai choisi. Finalement, je suis Romane Monnier. Mais j'aurais trouvé ça assez beau, assez mystérieux.
Est-ce que le choix de Romane a à voir voir à ça ou
Oui, je pense, parce que j'ai à la fois cherché... Monnier, c'est un nom assez commun, on va dire. Donc, j'avais envie d'un nom assez commun, assez court, mais qui sonne bien. Je trouve ça assez beau, Monnier. Je ne sais pas pourquoi, c'est juste la sonorité. Et ensuite, les prénoms, et c'est souvent le cas dans mes romans, j'essaye de faire en sorte qu'ils soient cohérents avec l'époque. Donc, j'ai regardé, par rapport à sa date de naissance, quels sont les prénoms les plus donnés, ou en tout cas fréquemment donnés à ce moment-là. Romane apparaît dans les 5 ou 6 premiers prénoms. Et donc, je me suis dit, ah oui, Romane, forcément, romanesque, etc. J'ai pensé à cette dimension de la fiction. Et puis, je trouvais que Romane Monnier, il y avait quelque chose de presque modianesque qui sonnait assez bien.
À quel moment ça arrive, le prénom et le nom de vos personnages dans l'écriture ?
Ça arrive assez tôt, en général, avant même la rédaction à proprement parler, dans une phase que je un peu de préparation, d'incubation. Ça a été le cas pour Romane Monnier, c'est venu avant même que je commence vraiment la rédaction. Et puis parfois, je tâtonne davantage. Par exemple, pour le personnage de Léo, qui est la fille donc de Thomas, qui se retrouve lui dépositaire de ce téléphone. Je voulais, je ne sais pas pourquoi, je ne sais même pas l'expliquer, un prénom qui soit à la fois masculin. Enfin, qui indique quelque chose de masculin pour une jeune femme et qui soit un diminutif. Et donc j'ai pensé à Max parce que qui aurait pu être Maxime. Enfin voilà.
Elle s'appelle Léonore, mais c'est vrai qu'on le voit presque jamais passer son vrai prénom.
Non, on le voit passer une fois et ensuite elle s'appelle Léo et.
Mais peut-être quelque chose de très contemporain. Moi j'y ai entendu quelque chose de très contemporain.
Oui, peut-être.
Fluidité des genres, toute une jeunesse qui a envie de circuler plus librement entre masculin et féminin.
Et donc ça j'ai un peu plus tâtonné. Elle a changé de prénom à plusieurs moments.
On va rentrer dans ce roman, mais un instant, puisque vous parlez d'une phase d'élaboration, de préparation, je ne sais pas ce que vous avez utilisé, de
d'incubation.
D'incubation, voilà. Ça ressemble à quoi pour vous, Delphine de Vigan, cette phase-là ?
Ça prend différentes formes, et je dirais de manière plus constante, souvent une phase de recherche, quand même, qui va d'ailleurs parfois explorer des territoires qui n'ont finalement pas grand chose à voir ou qui vont pas être vraiment utiles. J'ai tendance à faire pas mal de lectures, accumuler des notes, etc. Auxquelles souvent je ne reviens même jamais. C'est-à-dire que je passe un temps fou à prendre des notes que je ne relis même pas. Mais je considère qu'elles font partie d'une espèce de
souterrain du livre.
Voilà, exactement. Il y a aussi beaucoup de choses, pardon, qui se font comme ça de manière là aussi que je laisse travailler, que je laisse vraiment maturer. Et je à partir du moment où je prends la décision, en tout cas je me dis je vais écrire quelque chose comme ça ou qui ressemble à ça, etc. Le livre commence à travailler tout seul. J'aime assez ça. Voilà, des prises de notes qui en général se font sur des carnets. Éventuellement, là, en l'occurrence, par exemple, j'ai interviewé une femme qui est enseignante et chercheuse sur les archives que j'avais entendues sur France Culture qui s'appelle Bénédicte Graille et bon, qui m'a expliqué et appris beaucoup de choses sur la manière dont on conservait aujourd'hui les archives numériques. Alors, je peux pas vous dire que ça m'est réellement servi pour le roman,
mais quand même,
oui, parce que de cette discussion, de cet échange, sont nées probablement des idées, des pistes que qu'ensuite je vais dérouler.
Vous dites que vous prenez à un moment donné la décision d'écrire sur, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui passent. Et il y a un train que vous attrapez, Delphine de Vigan. Comment ça se passe ?
Non, c'est plus successif que concomitant. Je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir à choisir, par exemple, entre plusieurs projets qui éventuellement m'occuperaient. Non, mais en revanche, d'avoir eu des idées auxquelles j'ai renoncé, oui. C'est-à-dire que parfois, je me dis je pourrais écrire un roman sur ci ou ça, ce serait génial, etc.
Et puis
assez vite, ça repart comme c'est venu. Et puis parfois il y a des idées qui sont plus tenaces.
Parce que ça insiste, parce que ça revient et vous vous dites ah tiens quand même ça retoque à la porte.
Exactement.
Vous l'avez dit, il y a cet homme qui s'appelle Thomas. Un jour, en rentrant d'une soirée, il se rend compte, plutôt en se réveillant un matin, qu'il n'arrive pas à déverrouiller son téléphone. Il l'essaye une fois, deux fois. Bon, il a l'impression qu'il est encore un peu sous. Mais non, ce n'est pas son téléphone. Il se retrouve donc avec le téléphone de quelqu'un d'autre. Et tout commence.
Un peu moins de 2000 personnes meurent chaque jour en France. Que fait-on de leur téléphone portable ? Il ne s'était jamais posé cette question, mais elle lui paraît soudain essentielle. Est-ce l'occasion pour leurs proches de percer enfin leur mystère, d'entrer par effraction dans leur univers, de pénétrer leur intimité ? Ou bien les proches respectent-ils la mémoire des défunts, leurs secrets, Et efface-t-il ses traces sans s'y aventurer? Bien sûr, il y a les codes secrets. Mais souvent, les conjoints les connaissent. Et dans le cas contraire, il est très facile de trouver quelqu'un pour les contourner. Une jeune femme qu'il ne connaît pas, qu'il n'avait jamais vue, a laissé à sa disposition des milliers de traces. Elle lui a laissé un monde, son monde. Elle lui a dit « Gardez-le ». Elle a écrit son code secret sur une petite carte et l'a glissé dans une enveloppe. L'autorise-t-elle ainsi à chercher? Espère-t-elle qu'il le fasse? Lui demande-t-elle de le faire? Le portable contient-il quelque chose qu'elle aimerait qu'il trouve? Doit-il garder le téléphone allumé ou au contraire l'éteindre et l'abandonner au fond d'un tiroir? Peut-être lui a-t-elle seulement confié l'objet afin qu'il en prenne soin et reviendra-t-elle le chercher un jour? Comme si abandonner son téléphone au premier venu était la chose la plus naturelle du monde.
Nous nous trouvons au début de votre roman Delphine de Vigan, je suis Romane Monnier, et cet homme se pose plein de questions. Ce qui est étonnant dans ce paragraphe-là, ou qui place peut-être les enjeux profonds de ce roman, c'est que ça commence par la mort. Cette femme n'est pas morte, il l'a rencontrée, et il lui a proposé de lui rendre son téléphone, elle a refusé. Et il pense aux gens qui meurent et à ce qu'on fait de leur téléphone quand ils meurent. Et tout le roman va être porté par une sorte de lame de fond sur l'effacement, quoi, de manière générale. Est-ce que vous savez ce que vous allez travailler au fond lorsque vous choisissez ce sujet de roman? Je veux dire, au-delà du sujet.
Oui, non, et ça a été souvent le cas. J'ai souvent été rattrapée, soit en cours d'écriture, soit après coup, par une espèce de lame de fond de ce que... peut-être d'ailleurs de l'origine même du livre, d'où il vient, sans que ce soit conscient. Ça m'est arrivé par exemple de me dire en cours d'écriture, je suis encore revenue à ça. Et là par exemple, oui, vous me parlez des traces de quand quelqu'un meurt. C'est vrai que sans doute ce personnage Thomas, c'est quand même quelqu'un qui a rencontré la mort assez jeune. Mm-hmm. Sa mère est morte de maladie quand il était assez jeune, son père s'est suicidé quand il était aussi très jeune, donc voilà, forcément la mort a déjà fait effraction dans la mort d'approche de gens très proches, voilà, dans sa vie, et il a eu à organiser, à vider des choses, à trier, à se poser la question de savoir ce qu'on garde ou pas de quelqu'un qui est mort, et c'est sans doute ça qui ressurgit au moment où il trouve ce téléphone
dont nous n'avons pas nécessairement conscience, et c'est ça qui est assez beau, moi je trouve, dans la manière dont progresse le texte. C'est-à-dire qu'au moment où il se pose toutes ces questions et où ces questions ont une telle profondeur pour lui, nous, on n'a pas cheminé encore dans le passé de Thomas. On n'est pas encore complètement au fait de ce que ça fait vibrer, cette histoire de téléphone avec lequel il se retrouve dans les mains. Donc, c'est petit à petit qu'on saisit tous les échos entre tous ces personnages. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'entend ici... Vous avez utilisé le mot effraction, mais c'est aussi une des questions qui se posent. Est-ce qu'il a le droit? Il a autant envie qu'il ne craint le geste d'entrer dans le téléphone alors qu'elle lui donne le code PIN.
Oui, il se sent à la fois un peu voyeur, en même temps à la fois autorisé, peut-être même incité à le faire. Il ne sait pas très bien. Et le téléphone arrive dans sa vie à un moment où il est un petit peu perdu, où il est un petit peu dans un temps de vacuité. C'est plus très bien. C'est pas qu'il va très mal, mais il va pas très bien non plus.
Sa fille a grandi,
sa fille est partie, etc. Ouais. Et en tout cas sur la construction du roman, oui, merci de le souligner, parce que c'était important pour moi que c'est... On découvre un certain nombre de choses après coup, ou soit qu'on les découvre, comme là, effectivement, cette résonance ou cette importance de la mort pour Thomas, ou qu'on les revisite. Et voilà, ça, j'ai vraiment travaillé sur cette construction-là.
On va y revenir, parce que les choses se mettent, en effet, mystérieusement ou romanesquement à vibrer les unes avec les autres. Peut-être on va revenir aussi sur la fascination qui a cet objet-là, c'est-à-dire qu'il y a autant d'excitation que de peur, que de morale qui se joue pour Thomas en ouvrant ce téléphone. On écoute Alain Damasio dans une archive de 2024. Je précise, 2024, c'était déjà il y a un petit bout de temps en fait.
Oui, il y a des choses qu'on sent. Voilà, moi je sens arriver très fortement, par exemple, l'intelligence artificielle personnalisée, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui sera paramétrée vraiment autour de tes goûts, de tes désirs, de tes pratiques quotidiennes, qui sera ton premier interlocuteur, la première personne avec qui tu vas parler, la dernière personne certainement dans la journée aussi avec qui tu vas parler, et tu parleras en langage naturel, au niveau d'une conversation tout à fait normale, et ça deviendra ton premier rapport au monde. Je pense que c'est ça qui arrive, et ça va totalement bouleverser nos rapports humains, notre psychologie, notre narcissisme, notre rapport amoureux aussi, parce que on ne comprendra plus que des gens qui nous parle, avec qui on est en couple, ne sache pas autant de choses que l'IA personnalisée le sait. Je trouve qu'on mesure très très peu dans les paradigmes technologiques l'impact psy que ça génère. Voilà, on essaye de voir par exemple l'impact des IA génératifs sur le travail en disant ça va supprimer 30% des emplois juridiques, des emplois médicaux, des emplois dans le tertiaire. Ok, on arrive à peu près économiquement à faire ça. Par contre, je trouve que culturellement, c'est-à-dire comment une technologie culturellement va être assimilée, est-ce qu'elle va changer dans nos quotidiens? On a souvent du mal à le faire, et c'est les auteurs de SF qui font ce travail-là, qui le font souvent bien, et qui arrivent à sentir ces choses-là, il me semble.
Mais justement, l'auteur de science-fiction Alain Damasio, ici, en décembre 2024, Alain Damasio qui est évoqué dans les notes de Roman, donc il va finir ce Thomas par ouvrir le téléphone de Roman et être happé par le monde qu'il va pouvoir découvrir. Et elle cite Damasio, elle dit « Entendu quelque part cette phrase d'Alain Damasio, continuez à vous géolocaliser, moi, je déguerpis. » Il y a quelque chose qui est frappant dans ce petit objet-là que vous mettez au cœur du roman, c'est qu'il contient à la fois potentiellement toute la fiction d'un être, ou ce qu'un être veut bien laisser dans une boîte, mais aussi beaucoup de choses du monde quand même, et de la manière dont le monde se transforme à toute vitesse, Delphine de Vigan.
Oui, et peut-être que justement, ce qui rend les choses très complexes, si un jour on doit s'y pencher, essayer d'y naviguer, de comprendre qui est Roman Monnier en l'occurrence, c'est que tout ça est très mêlé. À la fois le plus intime, le plus sincère, le plus authentique, j'ai envie de vous dire, en même temps, ce qui est de l'ordre de la représentation ou de la fiction, le plus anecdotique, l'insignifiance totale et en même temps le plus précieux, et tout ça me semble tellement mélangé que on n'y retrouve plus du tout, on y perd complètement son latin.
En même temps, on y perd son latin, et à vous écouter et à lire le livre, parce que donc tous les soirs Thomas va comme ouvrir une sorte de nouvelle porte en fait de ce téléphone. Avant, il n'y avait pas d'autres objets qui pouvaient contenir autant de choses, à la fois le billet de train, le trajet de vélo que j'ai fait,
non, bien sûr
le
que
code
non.
d'accès de je sais pas quoi, les photos de mes enfants, la vidéo d'il y a 10 ans en vacances. Et c'est vous parliez d'archives, mais c'est comme une sorte de mini... archive incroyable, quoi.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Enfin, c'est-à-dire que jamais un objet a contenu autant,
ça, c'est un fait
autant de choses de nos vies. Et d'ailleurs, enfin, en faisant différentes lectures avant d'écrire le roman, quand même, d'aucuns s'accordent à dire que aucun objet avant celui-là n'a révolutionné notre vie de manière aussi profonde que le téléphone, que le smartphone. Et c'est pas fini, parce que, en plus, effectivement, avec l'intelligence artificielle, exactement ce dont parle Alain Damasio dans votre archive, qui s'avère très visionnaire.
Bien sûr, puisque deux ans après, on y est déjà. Des IA qui vous parlent comme si c'était votre meilleur ami, voire votre amoureux, voire votre psy, selon les articles récents.
Oui, tout à fait. Donc, oui, ça, c'est assez vertigineux, et pour ma part, il y a quelque chose qui m'effraie assez. Dans la manière dont tout cela est mêlé, tout cela est noyé.
Et en même temps, une des questions que pose le roman, sans évidemment la résoudre, c'est bien sûr l'idée qu'on s'y dévoilerait beaucoup, énormément, mais qu'on ne serait évidemment pas réductible à toutes ces informations. C'est-à-dire que Thomas, il aura beau passer toutes les nuits qu'il voudra à regarder le dernier des derniers des derniers fichiers contenus dans le téléphone portable, il n'arrivera pas au bout de qui est Roman Monnier.
Absolument. Et de fait, déjà, il sans doute n'a-t-il pas pu explorer tout. Il a choisi des modes opératoires, il en a changé, il a procédé par mots-clés, il est tombé sur une première histoire d'amour, sur une dispute d'amis, sur des fichiers audio, audio et finalement sur des notes, mais qui sait si le téléphone ne recèle pas quelque chose finalement de plus intime encore ou de plus important encore. On n'en finira pas.
Et en même temps, ça nous raconte aussi peut-être qu'on n'en finira pas de buter contre l'opacité des êtres, qu'ils soient proches ou pas proches de nous, Delphine de Vigan, non ? C'est-à-dire qu'on ne sera jamais résumable, quoi qu'on...
Non, bien sûr, mais si on revient à cette idée des traces qu'on laisse quand on part ou quand on meurt, il me semble qu'auparavant, on avait quand même eu l'occasion de faire un certain nombre de tris au cours d'un déménagement, il y a différents événements de la vie. Qui font qu'à un moment donné, on va se dire ça, je garde, ça, je jette. Les courriers d'un tel, je m'en fous, je les jette. Ça, en revanche, c'est quelqu'un qui a été important pour moi. Tel cahier, tel. Or là, nos téléphones contiennent tellement facilement tout. Peut-être que c'est personnel d'ailleurs, parce que je ne sais pas quelles sont les pratiques des uns et des autres. Mais moi, je n'ai pas le temps de supprimer. Je supprime, oui, je me donne l'illusion de supprimer un certain nombre de choses. Là, récemment, j'ai fait une grande opération de suppression de photos. Mais bon, je suis passée de 17 000 photos à 12 000.
Ça reste beaucoup.
Ouais. Ça reste énorme. Vous voyez, donc, il y a quelque chose pour moi dans cette abondance qui me fait assez peur.
Il y a une forme qui se révèle au milieu de toutes les formes que vous explorez, y compris d'un point de vue littéraire, c'est celle de la conversation, évidemment. Alors, on écoute un extrait de votre roman.
Les gens ne comprennent pas. Ils pensent que j'exagère. Mais en fait, je cherche quelque chose qui a disparu. Quelque chose de pur, de limpide. Qui n'existe plus. En ce moment, j'enregistre tout. Les dîners, les rencontres dans les cafés et quand c'est possible, les conversations au téléphone. Même les échanges avec mes parents. Vous savez, les dernières fois, quand j'ai voulu savoir, je les ai enregistrés. Vous leur avez dit ? À ma mère, oui. À mon père, non. Mais il l'a découvert. Et qu'en faites-vous ensuite ? Je réécoute et je cherche ce qui grince, ce qui grésille. Vous savez, la plupart des gens adaptent leur discours à leur interlocuteur. Selon qu'ils parlent à leurs copains, leurs tantes, leur mère, leur patron, ils ne vont pas dire tout à fait la même chose, ou pas tout à fait de la même manière. Parce qu'ils ne jouent pas le même personnage. De même, les gens vous disent quelque chose, mais à peine quelques jours ou quelques semaines plus tard, s'ils vous racontent la même histoire, ou qu'ils la racontent devant vous, ils en ont déjà une autre version. Moi aussi, hein, sans m'en rendre compte, je fais sans doute la même chose. C'est impressionnant cette capacité que nous avons à nous transformer nous-mêmes et à transformer le réel.
Parmi les choses que trouve Thomas dans le téléphone de Romane Monnier, il y a des notes, il y a des conversations avec ses amis, et il y a aussi des enregistrements de ses séances de psy. Comment est-ce que vous êtes arrivée à cette idée-là, Delphine de Vigan ? Et peut-être plus ça va, plus finalement on arrive à séances de psy, prise de notes, comme s'il y avait une sorte de construction circulaire de votre roman qui se rapproche du plus intime, du plus vrai. C'est une autre des questions du roman.
Oui, du plus intime, ça c'est sûr, parce que j'avais vraiment cette idée d'une progression dans les découvertes de Thomas. Et même si on commence justement par une histoire d'amour qui s'est achevée un peu rapidement, et ce qui peut donner l'impression d'être déjà dans quelque chose de très intime, c'est finalement à mesure qu'il va progresser, qu'il va s'approcher vraiment du cœur de qui est Romane Monnier, et
quelles
sont ses motivations, et pourquoi elle a laissé son téléphone. Et l'idée des enregistrements, elle m'est venue assez vite. Là, pour moi, ça a ouvert un territoire fantastique parce que à la fois, ça permettait évidemment, dans la mesure où elle enregistre ses parents, elle enregistre sa psy, ça me permettait d'aller vers des choses très, très intimes, très vivantes. Et puis, depuis déjà longtemps, je m'intéresse beaucoup à l'oralité dans l'écriture, à faire vivre cette oralité quand j'écris. Récemment, j'ai fait des pas vers le théâtre. Donc là, c'était vraiment vraiment une façon de mettre un peu à l'épreuve tout ça et d'essayer de faire vivre ces séances de psy, qu'on les lise comme si on les entendait, comme si on était dans le téléphone de Romane au moment où on les lit. C'était assez, assez passionnant.
Et en effet, ce téléphone, en même temps que Thomas donc, se promène dans toutes les applications, c'est aussi... Il y a vraiment comme une sorte de plongée virtuelle, c'est le cas de le dire, quoi. Et c'est tellement devenu des rhizomes, des géographies en tant que telles, ces téléphones portables. Il y a qu'à voir des enfants qui nous ont à peine vus, touchés, qui sont capables de se promener de manière tellement effrayante, mais tellement ergonomique dans ces portables. Ça vous permet aussi d'aller sur des territoires littéraires différents. Par exemple, il y a des mails, il y a des échanges de textos. Il y a à chaque fois, ça vous permet aussi, j'imagine, d'écrire une nouvelle langue.
Oui, tout à fait. C'était vraiment parmi mes ambitions de faire cohabiter ces différents registres de langue. Et parce que, évidemment, on n'écrit pas comme on parle, réciproquement. Et puis, comme elle le dit, on ne s'adresse pas de la même manière aux personnes avec lesquelles on est en contact. On ne parle pas de la même manière à un ami ou à sa mère, etc. Donc de faire exister cette... Alors là, c'était une vraie interrogation de savoir jusqu'où j'allais dans l'effet de réel, parce que je trouve que parfois, quand on va trop loin, finalement, on perd un peu on perd la nécessité. Mais là, malgré tout, qui est la langue des SMS avec ses copines, assez rapide,
c'est beau, ces
échanges, assez... moi, je les aime bien. J'aime bien cette idée aussi de faire entrer... Dans la littérature, quelque chose qui n'est pas littéraire a priori, qui peut même faire parfois l'objet d'un certain rejet ou d'une...
Mais qui est tellement le monde des mots du maintenant.
Exactement,
quand même.
Oui. Ouais. Et donc, c'était assez palpitant de faire entrer tout ça dans le téléphone de Romane Monnier et par conséquent,
dans le livre.
Ouais.
On va écouter la voix de Nathalie, auditrice, qui est une fervente lectrice de vos romans et qui a beaucoup aimé Je suis Romane Monnier. Elle évoque une des dimensions de ce texte.
Bonjour le Book Club. Bonjour Delphine de Figan. J'ai lu votre livre d'une traite et je l'ai adoré. Il me semble que deux questions fondamentales sont posées dans votre roman. À quel point le téléphone portable est-il le reflet de nos vies? Est-ce bénéfique? Est-ce dangereux? Et puis quel est le rapport que nous entretenons avec notre smartphone? En sommes-nous esclaves? Pourrions-nous vivre sans? Vous êtes suffisamment habile pour nous embarquer aux côtés de chacun de vos personnages et nous faire nous poser ces questions qui sont au cœur de notre quotidien. Merci.
Il y a quelque chose dans la remarque de Nathalie qui nous donne envie de parler de la pluralité des personnages. Donc bien sûr, il y a Romane Monnier, bien sûr, il y a Thomas qui se retrouve avec cet objet. Mais il y a aussi la fille de Thomas, il y a aussi les amis de la fille de Thomas, il y a aussi l'histoire de Thomas, l'histoire de la mère de Léo, la fille de Thomas qui s'appelle Pauline, qui est partie. Et c'est comme si vous composiez une sorte de reflet d'une seule et même question qui serait, ou de grandes questions qui seraient, est-ce qu'on peut partir sans laisser de traces? Est-ce qu'on a le droit de disparaître? Qu'est-ce que c'est, disparaître de la vie de quelqu'un? Comment se remettre de la disparition de la vie de quelqu'un? Comme si, ça me revient vraiment l'idée que chaque personnage a ses raisons dans ce roman-là.
Oui, et qu'elles se mêlent, qu'elles font écho. Ce qui m'intéressait, c'était qu'au départ, on pense que c'est le pur hasard que Thomas se trouve dépositaire de cet objet, et qu'à mesure qu'il avance dans son exploration, ça l'oblige quasiment à revisiter un certain nombre de récits de sa propre vie, peut-être à les revisiter, à les penser différemment, et de constater indéniablement qu'il y a des échos entre ce qu'il a vécu et ce que... Et finalement, cette disparition de Romane Monnier. Donc oui, bien sûr, il y a des
échos. Il y a comme une sorte de
mise en miroir.
Oui, de mise en miroir ou de cascade, quoi. C'est-à-dire que... Et ça, c'est vraiment une création du roman. C'est que petit à petit, on ne se contente pas d'imaginer qu'il est élu. C'est juste que c'est comme ça que fonctionne la vie. C'est que les gens et ce qu'ils ont vécu viennent offrir à un moment précis un petit miroir avec quelque chose de nous-mêmes qui fait écho, on renvoie à quelque... Voilà, et ça, le roman l'organise, quoi.
Ouais, ce sont finalement seulement des hypothèses, comme peuvent l'être un certain nombre de synchronicités, par exemple, dans notre vie. Je pense qu'on a tous vécu ça, ces moments où soudain, une rencontre
allume
une lumière, semble faire écho à quelque chose, à une chose à laquelle on a pensé cinq minutes plus tôt, une conversation vient confirmer. Et voilà, ça, j'aimais bien l'idée d'essayer de traduire ça dans le roman et dans la manière dont le roman avance.
Et il y a aussi la possibilité que ça offre de traiter plusieurs qualités de liens, au sens, il y a le lien amoureux, il y a l'emprise amoureux, il y a des choses très contemporaines qui sont décrites sous les termes de love bombing, avant le ghosting, tous ces mots-là qui ont débarqué dans le débat public et en anglais, c'est pour ça que je ne les traduis pas. Mais il y a aussi la relation filiale entre Thomas et Léonore. C'est assez beau, c'est assez confiant, c'est doux, calme, alors ils se sont pris des bombes les uns les autres dans leur vie. Il y a quelque chose de très beau que vous dessinez là, quand même, entre ces deux-là.
Ah oui, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup leur lien, je dois dire. Je me suis beaucoup attachée à ces personnages. Le lien, c'est vraiment, sans doute, c'est pratiquement tout ce qui m'intéresse, quelque part, quand j'écris. Le lien, toutes les formes qu'il peut prendre. C'est vraiment un thème, un motif, je ne sais même pas comment le dire, qui est totalement récurrent dans mon travail. Parfois la violence aussi, hein, l'enfermement du lien et en même temps la beauté du lien. Et c'est vrai que cette relation entre Thomas et sa fille, il y avait pour moi quelque chose de très très, enfin, que j'avais vraiment envie de mettre en valeur, en douceur, j'ai envie de dire.
C'est délicat, quoi. Oui, il est embarrassé. Qu'est-ce qu'il doit être, quoi, maintenant qu'elle est grande et qu'elle s'est barrée, qu'il a été. On va pas tout dire, mais. Qu'il a été là pour, peut-être la sauver d'un bien grand vertige parce qu'elle se retrouve sans sa mère. Enfin, voilà, c'est un certain moment. Et puis, il y a aussi des histoires d'amitié. Tous ces mots échangés entre Roman et Chloé, les moments où ça gratte fort, les moments où c'est difficile, ces longues amitiés entre jeunes filles.
Parce que c'est une amie d'enfance. Ouais. Oui. Bah, c'est aussi toute cette question des traces, d'ailleurs. Hein, ça rejoint cette question des traces. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une amie d'enfance si ce n'est quelqu'un qui connaît.
Toutes les archives,
Oui, les archives. La tête de vos parents, la manière dont ils vous parlaient, la manière dont on se parlait chez vous, l'odeur de votre appartement, etc. Et pour Thomas, il y a aussi ce qu'il a dans la relation avec Léo, qu'est-ce qu'il a transmis à sa fille, quelles traces, de quoi on hérite finalement, au-delà évidemment des traces tangibles, de quoi on hérite, que parfois on transmet à nos enfants dont on préférait les épargner. Et lui, il est vraiment dans un moment de sa vie où sa fille commence à être indépendante et vivre sa vie d'adulte et où il se pose la question de quel bagage il lui a refourgué plus ou moins malgré lui.
Et ce téléphone est l'occasion pour lui d'explorer cette question. On va écouter la voix d'une romancière, Maëlys de Kerangal, dans une masterclass en 2017 sur France Culture. Elle parle de l'aspect oral de son écriture.
J'ai longtemps pensé que lire à voix haute, c'était vérifier, stabiliser la ponctuation, le rythme, cadencer le texte, l'entendre pour le stabiliser dans la manière dont il va s'entendre. C'était vraiment l'idée d'écrire à l'oreille. Plus je le fais, et en fait, plus je me rends compte qu'il s'agit complètement d'autre chose. C'est que je crois que je le lis pour qu'il existe, en fait. Tant que je ne l'ai pas lu, finalement, il n'existe pas. Le dire, c'est comme le faire naître. Et c'est une façon d'inscrire la lecture dans l'écriture. Donc, si vous voulez, je le lis et finalement, il existe et il existe déjà pour moi-même. Je l'ai entendu, j'en ai une espèce d'empreinte sonore. J'ai l'impression de le faire naître, de l'initialiser quand je le lis. Et que de cette manière-là, effectivement, je peux y croire un peu.
La voix de la romancière Maëlys de Kerangal lors de sa masterclass en 2017 sur France Culture. Est-ce que vous travaillez vos textes à voix haute, Delphine de Vigan ?
Oui, beaucoup. Je l'ai souvent dit, je me relis beaucoup, beaucoup à voix haute. Parce que je me suis assez vite rendu compte que je cherchais dans l'écriture quelque chose qui était quand même de l'ordre de la musique. En tout cas, que j'accordais une importance très grande au rythme des phrases. Pas seulement d'ailleurs pour faire exister le texte, même si peut-être qu'il y a quelque chose de ça, mais avec aussi ce sentiment qu'en fait c'est sans fin, c'est-à-dire que je ne suis jamais tout à fait satisfaite et qu'à un moment donné je vais m'approcher d'un rythme qui semble me convenir à force de lire, de relire, etc. Mais qu'au fond, si je relis un texte que j'ai écrit 2 ans, 3 ans plus tôt, comme parfois il m'arrive d'être amenée à relire dans une occasion ou une autre un ancien roman, d'avoir avoir à le lire à voix haute, je vais le modifier, en fait. Il y a de nouveau quelque chose dans le rythme qui ne me convient pas. Comme si, au fond, ce rythme-là, il était en accord avec une espèce de biologie interne du moment, et que cette biologie, elle peut évoluer. Elle bouge, oui. Et je n'ai aucun souvenir d'avoir lu, par exemple, à voix haute des textes anciens sans les avoir modifiés, sans avoir enlevé un mot, parce que pour moi, c'était justement deux syllabes de trop.
Mais ça fait.
Ça ne faisait pas musique, ou que c'était plus la musique que j'avais envie d'entendre.
Oui, mais c'est marrant parce que vous parliez à la fois d'une musique que vous avez envie d'entendre, mais au final, on a presque l'impression d'un cœur qui bat ou d'une pulsation d'organe, enfin, quelque chose de très, très intérieur, très physique, quoi.
Oui, c'est très juste. Il y a vraiment quelque chose d'organique, en tout cas, de très viscéral. Dans cette espèce de passer, enfin, dans l'idée de passer le texte par l'épreuve de la voix.
Du corps, quoi.
Par l'épreuve du corps, avec aussi toute l'insatisfaction que ça peut générer par moment. C'est-à-dire que, à la fois, c'est parfois porteur, où je me dis, voilà, c'est ça, c'est ça que je cherche, c'est ce rythme-là, et notamment, par exemple, pour toutes ces parties très orales du roman, et par moment, de ne pas y arriver, en tout cas, de me heurter à quelque chose qui me semble très déceptif, et de pas sentir cet écho, justement, probablement dans mon propre corps, avant tout.
Oui, c'est exactement ce que j'allais dire, parce que au final, dans Je suis Romane Monnier, on le disait tout à l'heure, il y a vraiment la question de la disparition, qu'elle soit volontaire, désirée, en réponse avec un phénomène de surveillance, ou qu'elle soit brutale pour une question de maladie ou de suicide. Et avec ce que vous racontez là, c'est comme si le texte, il attestait quelque chose de physique, que par ailleurs, dans votre roman, vous faites vaciller. Il y a beaucoup de questions de disparition, d'effacement, enfin, comme s'il y avait une tension entre les deux, David de Vigan.
Oui, c'est vrai.
Comme si le texte, il était solide, quoi. Lui, il est solide. Lui, il est là.
J'espère. J'espère qu'il l'est. Mais voilà, il me semble vulnérable aussi.
Ah oui, c'est vrai, les textes aussi continuent de l'être. Oui,
je crois.
Parce que modifiable, corrigeable à l'infini.
Oui, parce que les choses. Alors peut-être que c'est le fait de vieillir qui me donne l'impression que tout va tellement vite maintenant. Mais voilà, avec. Je suis heureuse quand je me rends compte qu'un texte que j'ai écrit il y a longtemps continue de faire écho. Je pense
par exemple
à Noé et moi ou aux heures souterraines. Noé et moi qui continue d'être étudié dans les collèges ou les lycées, alors que le livre met en scène des adolescents qui n'ont plus rien à voir avec les adolescents d'aujourd'hui, si ce n'est de manière essentielle, qu'est-ce que c'est qu'être adolescent. Mais en tout cas, leur vie quotidienne n'a pas grand-chose à voir avec la vie quotidienne des adolescents d'aujourd'hui. Ou les heures souterraines sur la souffrance au travail, qui est malheureusement un thème qui continue d'être d'actualité. Mais j'ai peur, sinon, d'une forme de dispersion, je ne sais pas, d'effacement. Comme ça, les textes me semblent, en tout cas les miens, me semblent fragiles.
Et en même temps, il y a quelque chose dans ce livre-là qui se termine par l'idée que on a le droit de le vouloir disparaître, on a le droit de le vouloir d'échapper au regard, on a le droit de le vouloir de pas être capturable, en tout cas. Et c'est assez intéressant parce que ce sont des femmes qui prennent cette liberté-là, si on peut le dire de cette manière-là, même si c'est beaucoup plus complexe, mais je trouve que ça laisse ça constate que ça se passe.
Oui, c'est vrai. Et peut-être aussi avec cette idée, je l'élabore au moment où je vous le dis, que peut-être ce qui reste de plus beau de nous, qu'on disparaisse ou qu'on meure, c'est ce qu'on a écrit. Et finalement, moi, ce que j'ai de plus précieux, par exemple, de ma mère, c'est ce qu'elle a écrit, plus encore que les photos. Et là, finalement, ce qui me semble peut-être le plus précieux dans ce que Romane a laissé, c'est ce qu'elle a écrit elle-même.
C'est par ça que vous terminez, en tout cas.
Oui.
Le book club continue. À cette heure-ci, dans le book club, on tient un agenda. C'est vrai qu'on a assez peu parlé de la place du journal intime, mais il y a quand même, à un moment donné, des formes du journal intime dans votre roman, Delphine de Vigan. Un agenda qui rend compte d'événements et de rendez-vous en lien avec le livre, la lecture, l'écriture. Vous pouvez nous envoyer des mails lebookclub@radiofrance.com pour nous parler d'un de ces rendez-vous, un de ces événements. Aujourd'hui, c'est la nouvelle édition du Festival de la Biographie, le biographe de l'importance des archives dont on voulait vous parler. Ça se passe au Carré d'Art de Nîmes, qui se tiendra du 23 au 25 janvier prochain, au programme concert, lecture, exposition, rencontre avec celles et ceux qui racontent raconte, explore, écrive la vie des autres. Ça se passe en collaboration avec le journal Le Point. Le prix de la biographie sera remis à Amos Reitman pour Les morts de Raoul Villain. Ça se passera le vendredi 23. L'entrée est libre et toutes les informations sont à retrouver sur le site festivaldelabiographie.com.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
À cette heure-ci, dans le Book Club, on joue à un grand jeu des pages musicales. On cherche de la musique dans les textes d'Delphine de Vigan. Alors, on propose aussi à nos auditeurs et auditrices de le faire. Pareil, il s'agit d'envoyer une captation d'écran, une photo d'un livre qu'on est en train de lire et où la musique surgit, même si c'est mystérieux, même si c'est pas très clair. Vous pouvez l'envoyer à lebookclub@radiofrance.com ou via le compte Instagram de l'émission. Évidemment, dans le téléphone de Romane Monnier, qu'explore soir après soir, Thomas, qui s'est retrouvé en sa possession, il y a de la musique. Mm-hmm. Il y a de la musique comme étant possiblement quoi? Un des reflets de la personnalité de Romane Monnier?
Ah oui, tout à fait, bien sûr. Ouais. Et aussi de quelqu'un de sa génération. Mm. Ouais.
Comme s'il y avait, oui, une sorte de continuation du portrait, quoi.
Mm. Oui.
Par là.
Un des aspects, en tout cas.
On lit un dernier extrait de votre roman. Mail de 10h, reçu par Romane le 6 mars 2025. Romane, ton récap My Deezer Months est prêt. Tes écoutes en février, 433 morceaux, 36 heures d'écoute. Stream les top morceaux, ces artistes sont toujours dans ton cœur. 1. Clara Isé, 350 minutes écoutées. 2. Zaout Sagazan, 346 minutes écoutées. 3. Solane, 327 minutes écoutées. Les morceaux qui t'ont accompagné ce mois-ci? 1. Le monde s'est dédoublé. 2. Langage. 3. Les ordres. 4. Insomnie. Ces artistes ont gagné ton cœur. Nouvelle pépite? Arlo Parks, I'm sorry. Jack White, What's the Rumpus? Théodora, Il me rit tout sonné. On se retrouve le mois prochain. Merci beaucoup Delphine de Vigan d'avoir été avec nous pour parler de votre livre Je suis Romane Monnier, paru aux éditions, j'ai failli dire Je suis Romane de Monnier, ça aurait été un lapsus intéressant, aux éditions Gallimard. Au son aujourd'hui, c'était Nicolas Leroulet, à la réalisation Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club, Luke Vauvillier, Mathilde Wagman, Marianne Chassor, Noé Margas, Léa Weissgruss, Garance Roubieux, Jeanne Aléos et Alexandre Alaï-Begovic qui anime pour nous la conversation, la grande conversation numérique sur le compte Instagram du Book Club. Il vous posait la question ce week-end, j'ai vu, est-ce que vous vous souvenez des livres que vous avez lus? Je vais répondre tout à l'heure.